Merci Edouard et merci les organisateurs de cette journée que je trouve pour le moment remarquable. On va essayer de rester à la hauteur. Alors j'ai trois choses à dire. D'abord, je ne suis pas un orateur, je préfère me référer à des notes. Je m'en excuse par avance. J'essaierai de rendre mon exposé malgré tout vivant. Je vais réduire la durée de mon intervention qui était prévue à 20 minutes à 15 minutes. Et j'ai fait en sorte que mon exposé suscite du débat. Donc, à certains égards, je serai provocateur au sens de maïeutique du terme. Hein? Voilà. Alors, d'abord, dans un article paru il y a quelques mois sur le site de Science Critique, j'ai parlé de la nécessité de faire émerger une communauté technocritique. Et Anthony Laurent m'a demandé de revenir aujourd'hui sur cette idée. Mais avant de parler de communauté technocritique, alors j'entendais communauté au sens communauté de pensée, hein. Mais avant de parler de communauté technocritique, il me semble nécessaire de s'entendre sur le sens du mot technocritique. Bon, ça a été rappelé par Anthony tout à l'heure et puis aussi par François. Le terme technocritique a été forgé en 1975 par Jean-Pierre Dupuy, qui était un philosophe et aussi un ingénieur. Et il était à l'époque, il dirigeait une collection au Seuil, et c'est donc le titre de la collection, c'était donc technocritique. Et puis, il y a, je crois, 6 ans, il y a eu le livre de François qui donc s'intitule Technocritique au pluriel. Et le mot est un peu entré dans le langage courant, enfin en tout cas dans nos sphères militantes. Alors, j'ignore ce qu'il en est. Ça, c'est la situation en France. Le mot technocritique, il est usité, même si c'est de manière marginale, il est usité en France. J'ignore ce qu'il en est à l'étranger, s'il y a des équivalents. Et ce serait intéressant de le savoir, d'ailleurs. Parce que moi, je le trouve très, très beau. Parce qu'il est concis et... Alors, il pose quand même un problème, c'est quand on dit technocritique, critiquer la technique, c'est être technocritique, est-ce que c'est critiquer la technique? Justement, il y a déjà un désaccord entre la plupart des membres de la mouvance technocritique, parce que certains préfèrent employer la technique, ce qui est mon cas, d'autres la technologie. Tout à l'heure, François et Jean-Baptiste parlaient de critique des techniques. Alors, on pourrait dire que là, on est dans les querelles byzantines. Je le dis tout de suite, pour moi, cette question de vocabulaire, elle est très importante. Et s'il doit y avoir une communauté, il faut un langage commun, en tout cas des références communes. Alors, peut-être, comme Fabrice n'est pas là, on pourra avoir un temps de débat supplémentaire, mais j'y reviendrai probablement dans les échanges avec le public. Alors, partons, je vous propose de partir de l'idée que la technocritique, c'est la critique d'une façon collective de penser et de vivre la technique ou la technologie. La critique d'une façon de penser et de vivre, autrement dit, la critique d'une idéologie, qu'on appellera idéologie technicienne. Cette critique est une critique militante, engagée, mais une critique extrêmement marginale, ultra minoritaire et quasi inaperçue. Là, on est presque dans l'entre-soi ce soir. On est très, très, très peu connu. Il n'a pas été question de technocritique, vous l'avez remarqué dans le débat des dernières élections européennes. Alors, cette critique, donc, le type de critique, alors pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Parce que le type de critique militante qui domine à travers le monde, pas simplement en France, de nos jours, et depuis maintenant près de 2 siècles, on va dire depuis 1848, et le manifeste du Parti communiste, c'est la critique marxiste. En d'autres termes, la critique du capitalisme. Il en a été question tout à l'heure dans le débat qui a suivi les interventions. Et je vais m'attarder là-dessus. Certes, depuis l'écroulement du bloc soviétique, on ne se dit plus marxiste. Mais au fond, pour entendre les arguments qui reviennent le plus souvent dans le débat public, c'est toujours plus ou moins la même grille de lecture qui revient et qui domine. Au centre du capitalisme, il y a le capital, il y a l'argent, il y a la concentration de l'argent, dans les mains de quelques-uns au détriment de beaucoup d'autres. Et il y a ce qu'on appelle donc les inégalités. Ces inégalités sont intolérables et il importe de les dénoncer, de les combattre. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point ce soir. Mais qu'entend-on également souvent dire dans le débat public accompagnant le discours de dénonciation des inégalités ? Qu'il importe de veiller à ce que chacun dispose d'un minimum de pouvoir d'achat. Ce qui signifie en clair, en tout cas pour moi, que la dénonciation des inégalités sociales s'inscrit le plus souvent dans le cadre d'une conception du monde étroitement matérialiste. Et c'est cette aporie, me semble-t-il, qui doit être au cœur de la pensée technocritique. C'est d'abord sur elle que doit s'établir un consensus. Pour le dire de manière ramassée, j'avancerai l'idée qu'il n'est de communauté technocritique concevable que sur la base d'une dénonciation de ce matérialisme. Alors, plus concrètement, je vois deux obstacles majeurs à la constitution de cette communauté. Le premier d'entre eux, c'est, je crois, justement, l'absence d'un consensus ou la permanence d'un certain flou concernant les liens existants entre idéologie technicienne et idéologie capitaliste. J'entends parfois l'expression techno-capitalisme. Et je dois dire que ce genre d'expression suscite chez moi les plus grandes réserves. J'ai d'ailleurs écrit un article sur Science Critique qui s'intitule « Impasse de la technoscience ». Je pense que ces mots-valises introduisent plus de confusion que d'explicitation. Parce qu'ils ne disent pas, finalement, quelle est la relation entre les deux termes. Pour m'expliquer sur ce point, je reviens sur la question des inégalités sociales. Que celles-ci ne cessent de croître et que la finance ou une poignée de financiers... Alors je précise qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai été très actif dans le mouvement altermondialiste, notamment dans l'association ATTAC. Donc je parle d'expérience. Alors que ces inégalités ne cessent de croître et que la finance ou une poignée de financiers gouvernent le monde, on est bien d'accord pour y voir un scandale. Pour autant, il importe de ne pas se fourvoyer dans une vision manichéenne du monde. Dans cette affaire, toutes les responsabilités sont engagées. Si le capitalisme a encore de beaux jours devant lui, et là je me lance dans une analyse prédictive, c'est avant tout parce qu'une immense majorité de nos congénères veulent pouvoir acheter, pouvoir acheter, en vue de s'assurer toujours plus de confort matériel. Ce que leur assure précisément le progrès technique. Le progrès technique dispense du confort matériel. Le progrès technique est infiniment séducteur dès lors qu'on est en quête de confort matériel. Au fond, les acteurs, entre guillemets, du capitalisme ne font que répondre à une demande, pour parler en termes d'économistes, à une demande et à stimuler celle-ci en provoquant un surcroît de l'offre au moyen d'une technique ayant pour nom publicité. La publicité est une technique. Or, ce qui est au cœur de l'anticapitalisme, c'est, à mon avis, le déni de cette réalité. D'où une approche extraordinairement clivante. D'un côté, les dominateurs, de l'autre, les pauvres et innocents exploités. Alors que l'idéologie technicienne est extrêmement complexe, le simplisme, à mes yeux, règne. Les anticapitalistes posent les problèmes en termes de domination. Or, ce qui, pour le coup, domine, ce n'est pas un diagnostic. Une série d'analyses expliquant comment il est possible que le fossé se creuse entre les riches et les pauvres. C'est plutôt l'émotion. On se flatte d'être indigné ou insoumis. Je sais que je vais choquer certains d'entre vous, certainement, mais je l'ai prévenu, je l'ai dit, je suis là pour ça. On répète à l'envi que l'économie réelle cède devant la finance. Mais il ne vient à l'idée de personne, par exemple, de développer le concept d'économie irréelle. Pour souligner que l'on est ici confronté non pas seulement à un problème d'injustice ou d'inéquité, mais aussi, et de façon bien plus déterminante, à une véritable explosion de non-sens, d'absurdité. On marche sur la tête. De même, quand on ne cesse de rappeler l'immense pouvoir des patrons des GAFA, non seulement en termes d'argent, mais en termes de capacité à façonner les consciences et le débat public, et là je fais évidemment allusion aux réseaux sociaux, c'est encore le plus souvent sous le registre de l'émotion, et en oubliant que sans cette obsession de l'intelligence artificielle, le capitalisme ne serait rien ou pas grand-chose. D'après ses défenseurs, ce qui fait l'efficacité du capitalisme, c'est sa capacité à s'auto-réguler et c'est sa réactivité. Or, tout le monde le sait, dès lors qu'il s'agit de passer un ordre, je parle d'un ordre financier, un algorithme est considérablement plus réactif que le plus vif des cerveaux. Il se trouve que les algorithmes ont été introduits en économie parce que, bien avant les ordinateurs, on a pris l'habitude de penser l'économie en termes de modélisation. Modélisation portant sur la fameuse efficience des marchés. Or, qu'est-ce que la modélisation, si ce n'est avant tout une technique ? J'ai bien conscience de formuler les choses là comme des évidences. Pourquoi alors la technocritique, ne s'impose-t-elle pas comme le type de critique le plus approprié du monde contemporain ? Parce que ce qui domine le débat public, c'est un préjugé énorme, monumental, je dirais même une véritable tragédie, l'idée que les techniques sont quelque chose de neutre et que tout dépend de l'usage qu'on en fait. Il est évident que l'idéologie capitaliste et l'idéologie technicienne sont liées. Il est évident que sans capitalisation, sans accumulation de capital, sans investissement massif, on ne pourrait concevoir et produire la moindre puce électronique. Il me semble tout aussi évident que si l'on produit autant de puces électroniques, c'est avant tout parce que le monde entier, et pas seulement nos chers décideurs, est engagé dans une gigantesque et phénoménale course à l'efficience. Et c'est ici l'occasion pour moi de rappeler la définition que Jacques Ellul donne de la technique en 1954 dans un livre au titre éloquent, « La technique ou l'enjeu du siècle ». Il dit, je le cite, que la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps est de rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace. Certes, la critique de l'idéologie technicienne et celle de l'idéologie capitaliste doivent être conciliées, je l'ai dit, je le répète, menées de concert, ça me semble même un impératif, mais il convient de savoir en quels termes ces idéologies se combinent. Pour ma part, s'il est un postulat sur lequel il convient de mener le débat technocritique, c'est une prise de position personnelle, c'est celui que je vous soumets à présent. L'idéologie technicienne détermine, façonne l'idéologie capitaliste. Ce que j'entends mettre en débat ici, maintenant, c'est l'idée que le premier pas vers la constitution d'une communauté technocritique, communauté, je le répète, communauté de pensée, passe par l'adhésion à ce postulat, l'adhésion. Pour être clair au maximum, je reformulerai les choses d'une autre manière. À force d'avoir développé les processus d'automation, et nous évoluons à présent dans l'ère du deep learning, de l'apprentissage, profond, la technique devient sans cesse davantage un processus autonome, ne répondant plus au moindre contrôle. On n'arrête pas le progrès, car on en est foutrement incapable. Première condition préalable à la constitution d'une communauté technocritique, donc l'affirmation commune, haut et fort, du primat de l'idéologie technicienne sur l'idéologie capitaliste. Or, ce qui me semble faire obstacle à cette première prise de position, c'est deux autres obstacles qui sont à mes yeux indissociablement liés. D'une part, la difficulté à penser globalement la technique, la technique, pas les techniques, la technique, penser globalement la technique, d'autre part à concevoir la technique comme un processus idéologique s'inscrivant dans le temps long. Alors, j'aborde d'abord le premier point. On a trop souvent l'habitude, y compris dans le milieu technocritique, d'approcher la technique comme la simple somme des techniques et à ne voir dans celle-ci que des moyens matériels, les machines, les nouvelles technologies, permettant de servir des objectifs, des finalités. Mais c'est là oublier que les techniques ne sont pas que des objets, mais aussi des méthodes. Et j'évoquais tout à l'heure la publicité, mais je pense aussi à la division du travail, mais la liste est longue. Quand je pense par exemple à Eric Sadin, quand il s'imagine que le numérique est l'enjeu du siècle, excusez-moi, je fais de la provocation, Eric Sadin sera là, je dirais la même chose, hein. Quand il dit que le numérique est l'enjeu du siècle, le 21e, il témoigne à mon sens d'une vision extrêmement réductrice du problème. Ce qui empêche également l'approche globale de la technique, c'est la difficulté à démontrer ou à souligner qu'il est vain de considérer encore la technique comme un moyen d'atteindre une finalité. Elle constitue bel et bien la finalité des finalités, les innombrables couplets sur le progrès, l'innovation, le changement, enfin tous ces mots vous les connaissez, ne le soulignent que trop. Troisième aspect de cette difficulté à penser globalement la technique, et non des moindres, c'est d'une part la difficulté à concevoir la technique comme un milieu ambiant. Alors, la technique comme milieu ambiant, ce concept-là, on le doit à George Friedman, en 1966, dans un très beau livre, « Sept études sur l'homme et la technique ». Et d'autre part, la difficulté à admettre qu'il est dans la nature de l'homme, je pèse mes mots, dans la nature de l'homme, de sacraliser toujours son milieu. Il sacralisait la nature, qu'à cela ne tienne. La technique est devenue son milieu ambiant. C'est désormais la technique qu'il sacralise. C'est par la technique qu'il a désacralisé la nature et désormais, il reporte le sentiment du sacré, son sacré, sur la technique. Alors, je voudrais citer, quand je dis ça, je vais là aussi donner la citation exacte, c'est Jacques Ellul qui la donne dans un livre qui s'appelle « Les nouveaux possédés », il se trouve là au stand. Je vous la cite, c'est « Ce n'est pas la technique qui nous a servi, c'est le sacré transféré à la technique qui nous empêche d'exercer notre esprit critique pour servir au développement humain. » C'est important, parce qu'on oublie souvent la deuxième partie de la phrase. Ce n'est pas la technique qui nous a servi, c'est le sacré transféré à la technique qui nous empêche d'exercer notre esprit critique sur le développement humain. Voilà, ça, il y a matière à réflexion. Alors, mille fois... Je précise que dans le cadre de l'association Technologos, j'ai organisé des débats. Je ne déborde pas. Ah. Mais tu m'avais dit tout à l'heure que je prenais la place de Flippo. 5 minutes. Mille fois, je me suis confronté. Alors, je précise que dans le cadre de l'association Technologos, j'ai organisé pas mal de débats publics comme ce soir. Et mille fois, je me suis confronté à ce préjugé. Sacraliser, c'est adorer, se prosterner religieusement. Mais ce n'est pas ça du tout, sacraliser. Je n'ai jamais rencontré un technophile s'agenouiller devant un ordinateur. En revanche, maintes fois, comme nous tous, ici j'imagine, j'ai observé dans mon entourage cette tendance à paniquer quand son portable n'a plus de batterie, a fortiori quand on ne met plus la main dessus. Je ne me risquerai pas ici à développer le concept de sacré à la technique plus que je ne l'ai fait. C'est vraiment un gros dossier. Je me contenterai de souligner une tendance générale à surestimer la technique, à la considérer comme indispensable, vitale. Et je soulignerai la nécessité de se pencher sur cette question sereinement, profondément, radicalement, c'est-à-dire à la racine. J'en viens à présent à... Tu vois, il ne me reste plus que ça, tu vois, ça va ? Bon. J'en viens à présenter le deuxième point. La difficulté à penser la technique sur le temps long. Alors, il a été question tout à l'heure avec Paul Jorion d'anthropologie. C'est un peu ça, en fait. Hein. C'est plus qu'un regard sociologique, c'est un regard anthropologique sur le temps long. Dans le meilleur des cas, on fait coïncider la naissance de l'idéologie technicienne avec l'apparition du processus d'industrialisation au XVIIIe siècle. C'est du reste le réflexe des Lulles, d'ailleurs, lui-même, dans Métamorphose du bourgeois, en 1967. Des études approfondies en histoire de l'art, que j'ai menées personnellement, m'incitent à situer l'origine du problème au XVe siècle, à Florence et dans les cités de Flandre, c'est-à-dire à l'endroit même et au moment même où se développe le capitalisme. On pourrait certainement remonter plus loin, aux Grecs et au mythe de Prométhée, voire carrément à la révolution néolithique. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, à l'épisode de la chute dans les bibliques, dans la Bible, quand Dieu congédie Adam et Ève, parce qu'ils ont goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal, et qu'il les envoie donc tous les deux sur le plancher des vaches. Alors, peu importe où on situe l'origine, les choses se font par paliers, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de toute manière de penser sur le temps long. On peut même s'accorder à dire que Alain Gras tenait un propos tout à l'heure, allait dans ce sens-là tout à l'heure, on peut dire que l'idéologie technicienne est consubstantielle à l'homme, ou qu'elle est latente, et qu'elle s'est développée au fil du temps, palier par palier. Quand je dis ça, je veux dire qu'il est impossible, alors ça, ça me paraît très important, il est impossible pour moi de s'improviser technocritique. On est obligé d'être cultivé, de se cultiver. C'est un travail d'assaise intellectuelle. Ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Je suis sur ces questions depuis plusieurs années, enfin, comme mes collègues ici, mais c'est vraiment indispensable. On ne peut pas faire ça comme ça. Il faut une véritable réflexion sur le temps long. Du moins en abordant conjointement des phénomènes, des faits sociaux, comme disait Weber, qui, à première vue, n'ont pas de rapport entre eux. Pour me faire l'écho des philosophes socratiques, c'est là toute la différence qu'il y a entre l'opinion, la doxa, et l'esprit critique, le logos. Je voudrais dire enfin que les deux points sont profondément liés. On ne peut saisir la question du sacré transféré de la technique qu'en se penchant de près sur l'évolution du processus technicien sur le temps long. Pour cela, il importe d'analyser de près le processus de sécularisation qui se met en place globalement en Europe à partir du XVe siècle et que l'on résume souvent sous le nom d'humanisme. Qu'est-ce que l'humanisme ? On ne peut donc faire l'économie d'une réflexion sur l'anthropocentrisme, tendance qui caractérise l'histoire de l'Occident et dont on trouve le point paroxystique au XIXe siècle avec le concept nietzschéen de Dieu est mort. La seule prononciation du mot « Dieu » me suffit pour pointer l'ampleur du chantier et le gigantesque tabou qui gouverne notre époque, caractérisé par le matérialisme, dont je parlais tout à l'heure, et l'athéisme. Bernard Charbonneau, le grand complice des Lulles, disait « On est athée aujourd'hui comme on était chrétien autrefois, de naissance ». Le plus grand enjeu de la pensée technocritique, à mon sens, c'est de vaincre les déterminismes liés à notre naissance. J'y vois, personnellement, la condition minimale à la concrétisation d'une communauté technocritique.